Première émission de la rentrée, donc ma commune est utile. Je suis en présence d'Alain Castan, de Philippe Ducène et de Maurice Chabrol, qui sont trois maires de la Dordogne. Nous allons parler aujourd'hui des services publics et plus particulièrement du service public de l'énergie, donc avec la fermeture du site de Mussidan. Donc je vais donner la parole à Philippe Ducène, qui est maire de Saint-Albert, mais maintenant ça s'appelle
Val-de-Lure-Icoteau.
Et qui est aussi président du SDE. Donc je crois, 24, et donc je crois que votre syndicat a pris position par rapport à la fermeture de ce site.
Oui, mais aussi il peut être de rappeler que c'est bien le syndicat à travers l'ensemble des communes de la Dordogne qui est propriétaire des réseaux de basse et moyenne tension. Enedis étant notre concessionnaire. Hein, voilà, donc c'est nous les patrons, entre guillemets, et nous louons le réseau à Enedis. Donc Enedis a aussi des obligations vis-à-vis de nous. Et nous sommes attachés, je dirais, viscéralement à un service public de proximité, dont celui de l'énergie, qui est évidemment une importance capitale dans le monde que nous vivons, où l'instabilité climatique et l'instabilité énergétique vont de pair. Donc nous sommes tout à fait opposé à cette fermeture du site de Mussidan. D'ailleurs, nous l'avons exprimé il y a déjà quelques mois, où nous avons pris une motion, un comité syndical que nous avons adressé bien sûr à la direction nationale mais aussi à la directrice locale qui a été avertie de notre position. En-delà du simple fait de la fermeture, ce qui nous inquiète, c'est que quand on regarde une carte, c'est un peu la problématique de ce que j'appelle l'astreinte. C'est-à-dire qu'en réalité, si aujourd'hui il y a une tempête, il y en aura d'autres, faut pas se faire d'illusions avec ce chaos climatique. Il faut qu'effectivement les agents de l'Enedis ne soient pas trop éloignés en temps et en distance, mais en temps du lieu éventuellement de désordre technique sur le réseau. Or, nous pensons qu'avec la réduction du site de Mission Voire, ensuite de Montignac, ce temps d'astreinte ne sera plus respecté et risque de mettre en insécurité le bon rétablissement des désordres liés aux incidents climatiques.
Oui, effectivement, Mussidan est un peu central par rapport à toute la région ouest du département, puisque c'est actuellement eux qui couvrent Ribérac. Donc ça veut dire que demain, Ribérac, pour aller intervenir, ça posera un certain nombre de problèmes.
Voilà, c'est exactement nous, notre au-delà de la continuité du service public, c'est l'histoire d'astreinte qui est une réalité physique, on va dire, et temporelle et spatiale. Et donc c'est pour ça que nous avons manifesté notre désaccord avec cette fermeture.
D'autant plus que d'après ce que je sais, c'est que le temps de coupure suite aux coupures est quand même un des plus importants au niveau français.
Alors, c'était vrai, ça l'est beaucoup moins vrai, nous avons gagné beaucoup de temps parce qu'effectivement, pour le bienfait des habitants, parce qu'effectivement, la coordination que nous avons mis en place maintenant avec Enedis et notamment les investissements massifs du SDE sur le réseau basse tension a amélioré la qualité du réseau et surtout la disparition des fils nus. Donc, en réalité, grâce aux efforts conjugués, parce que nous avons été bons dans la négociation, dans le contrat que nous avons avec Enedis, qui a augmenté considérablement les investissements et nos efforts propres. Aujourd'hui, ce temps de coupure s'est réduit. Tant mieux. Et nous étions les avant-derniers de la classe, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on n'est pas encore au niveau national. Hein. Voilà, on a encore de la marge de progrès.
Oui, je sais que vous avez particulièrement travaillé sur le réseau fil nu basse tension, c'est-à-dire qu'actuellement, sur le département, il ne doit plus y en avoir normalement.
Absolument, il n'y a plus de fil nu et donc c'est ce qu'on appelle la qualité de la fourniture qui se trouve. Et donc effectivement, l'habitant qui est dans la morgue le plus éloigné de la Dordogne, aujourd'hui va être moins soumis aux aléas climatiques qu'il ne l'était lorsqu'il avait des fils nus.
Oui, le problème pour Enedis, c'est surtout son réseau moyenne tension en fil nu.
Alors, il y a encore ce qu'on appelle, surtout en milieu urbain, plus en milieu rural, puisque nous, on ne gère que le milieu rural, donc c'est fini. On a éradiqué en 6 ans quasi 1800 km de fil nu. Il reste à peu près, on pense, 200 km de fil nu dans les milieux urbains, mais là aussi, grâce à nos capacités de négociation, mais à notre argent, puisque chaque année, depuis maintenant 2 ans, nous investissons 200 000 euros pour la résorption des fils nus en milieu périphérique, rural, des communes dites urbaines. Donc nous serons très exigeants dans le nouveau avenant à la concession. Nous avons demandé une réduction plus rapide des fils nus en milieu urbain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des interlocuteurs malgré tout qui comprennent que pour une fois, ce ne sont pas les ruraux qui sont les derniers de la classe, mais les urbains.
Marie, vous baladez comme vous dans les campagnes de la Dordogne et je vois les lignes moyenne tension avec des arbres qui sont quand même très très près des fils qui posent un certain nombre de problèmes.
Alain ? Oui, mais moi je vais répondre en tant que président des maires ruraux. Et je remercie d'ailleurs Philippe Dussain d'être intervenu par rapport à ce débat, parce qu'il est important. Il faut voir quand même que la majorité des maires ruraux sont pour le maintien de ces agences. Il faut savoir qu'il y en avait 22 aujourd'hui. Il en reste 9 ou 10. Donc ça les ferait passer à 7. C'est inadmissible, parce que les dépannages ne se font beaucoup moins rapidement. Et on se rend compte aujourd'hui ce que c'est qu'un dépannage. Et je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la moyenne tension. La moyenne tension, il y a eu des améliorations, des investissements de fait par Enedis. Ça, il faut le reconnaître. Et ça marche bien, surtout avec tout ce qui est appareillage à distance, où il y a eu vraiment de l'amélioration. Cependant, quand des fils moyenne tension tombent, et ça arrive encore, parce qu'il y a des endroits où ça manque d'élagage. Là aussi, ils ont fait des efforts, mais il y a encore des efforts à faire, étant donné qu'il y a des élagages encore à faire. Alors, quand un arbre tombe sur une moyenne tension, moi qui suis un ancien d'EDF, je ne dis pas Enedis, puisque moi j'ai connu EDF que sous le sigle EDF, il n'y avait pas toutes ces filiales. Moi, personnellement, une moyenne tension qui tombait à 8h du matin, allez, à 10h, 11h, elle était rétablie. C'est-à-dire qu'il y avait un temps de coupure de 2 à 3 heures. Aujourd'hui, il faut 2 jours. Il faut 2 jours, pourquoi ? Parce que d'abord, il faut prévenir le centre d'appel dépannage qui est à Bordeaux. De Bordeaux, ils envoyaient quelqu'un pour regarder où est la panne. Ce quelqu'un a trouvé la panne, il va envoyer quelqu'un pour faire une coupure, pour mettre en sécurité le réseau. Derrière ça, il y a encore une personne qui va venir, certainement tout seul, pour faire le dépannage, ou à deux. Donc vous voyez un petit peu le temps qu'on perd. Et bien évidemment, il faut regarder aussi le développement durable. C'est 1, 2, 3, 4 véhicules pour la même panne. Alors que dans le temps, quand on avait un dépannage à faire, c'était pratiquement inné et c'était dans le mouvement. On faisait notre propre coupure, on faisait notre propre consignation, on faisait notre propre dépannage et on faisait notre propre établissement. Temps perdu, pratiquement 24 heures. Voilà ce que moi je reproche à Enedis par rapport à tous ces renouvellements de sites. Alors bien sûr, derrière, il y a des idées. Et des idées, je l'ai toujours dit depuis le début, c'est bien évident qu'Enedis aujourd'hui à la maison mère doit donner des dividendes pour les gens qui spéculent. Et on n'est plus aujourd'hui dans les investissements positifs qui allaient dans le sens de la ruralité et des gens qui habitent la ruralité.
Maurice, par rapport à toi qui es un peu dans le nord du département, ces fermetures, ces dépannages à longue distance, toi tu es une agence encore sur Nanton, mais là c'est pareil, Enedis est en train de travailler pour se rapprocher de la Charente et de la Haute-Vienne et de faire une plateforme commune qui là aussi risque d'allonger le temps d'intervention.
Alors moi, ce qui me concerne au niveau du Nord, effectivement, on n'a pas eu de fermeture pour l'instant d'agence, mais bon, ceci dit, ça peut venir d'un moment à un autre. Hein. Effectivement, bon, en Dordogne, il y a déjà 2 qui vont fermer ou qui sont quasiment fermés. Il y en avait même une sur Thiviers, je ne sais pas où l'année. Elle est fermée, donc je la prends. Donc Ribérac aussi. Donc reste encore Nontron. Mais bon, nous, sur notre secteur, on a eu la tempête de 99. Qui a permis à la fois que Enedis a réalisé d'énormes travaux d'enfouissement, ce qui aujourd'hui on a moins de coupures qu'il y a pu y avoir. Il y a aussi le SD24 qui a aussi fait un gros travail sur les fils nus, donc où il y a eu de l'enfouissement et puis même du réseau aérien sécurisé, on va dire. Donc sur le nord, effectivement, bon, faut pas trop se plaindre par rapport au sud, moi qui suivis un peu l'actualité avec les problèmes d'orage qu'il y a pu y avoir sur le département de la Dordogne. Donc on a été un petit peu privilégié jusqu'à présent, je dis bien. Et donc effectivement, ce service public qui se détériore comme d'autres services publics, on va dire, hein, heureusement que, je dirais, le SE24 existe. Et j'espère qu'il continuera à exister très longtemps, que nous sommes des élus ruraux qui le faisons fonctionner. Et grâce à ça, on peut atténuer tous ces problèmes de panne qui peuvent, je dirais, perturber la société.
J'ai appris aussi que bon, Enedis, dans sa politique de fermeture, mais en même temps, se veut écologique et va améliorer son parc pour des voitures électriques. Alors je trouve un peu bizarre que faire des interventions avec des voitures électriques, donc en augmentant les distances, quand les gars vont arriver sur le chantier, ils ne pourront peut-être plus repartir parce qu'ils n'ont pas pu l'alimenter.
C'est un peu la vérité.
Donc c'est un petit peu un point d'humour, mais je crois qu'il faut être un petit peu cohérent. Plus les points sont prêts, plus les interventions, même si on met des voitures électriques, elles pourront peut-être repartir parce que bon, elles ont assez de charge.
Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le développement durable. Aujourd'hui, on est dans la transition écologique. Les véhicules et la mobilité en fait partie. Et donc, plus on éloigne le véhicule du site où il faut faire le dépannage et plus on pénalise le développement durable. C'est-à-dire que, alors, ça me fait rire quand tu dis qu'on va venir dépanner avec un véhicule électrique un fil qui est tombé, qui est à 11 mètres de hauteur. Là, je pense que la voiture électrique ne grimpera pas au poteau. Donc, il faudra quand même des engins lourds pour pouvoir faire le dépannage. Faire le dépannage, voilà, ça c'est une vérité. Mais je te dis, derrière ça, il y a d'autres idées. Des services publics, enfin des représentants des services publics que sont EDF, parce qu'il ne faut pas mettre qu'Enedis dans le lot. Il faut mettre Enedis, il faut mettre RTE, il faut mettre tous les services, toutes les filiales d'EDF. Le grand responsable, c'est EDF. Et aujourd'hui, on voit bien que la gestion d'EDF n'est plus la même et qu'ils ont d'autres priorités. Donc la priorité de la ruralité, EDF s'en moque éperdument. Puisque eux, ils sont dans la même politique que nos gouvernements, c'est-à-dire que c'est les métropoles qui sont prioritaires parce qu'il y a un agglomérat de personnes qui rapportent davantage. Vous pensez bien que le fermier qui est au fin fond de Saint-Caprès de la Lende ou qui est au fin fond de Firbex n'ont pas le même intérêt pour EDF que peuvent l'être les grands groupes qui sont dans les métropoles. Donc leur intérêt, c'est celui-là. Maintenant, moi, en tant que président des maires ruraux, avec la MRF, on défend justement cette idée de proximité, puisque nous représentons, je le répète, 88% du territoire français, avec 33% de la population. Donc, quelque part, il faut en tenir compte. Heureusement, comme l'a dit Maurice, que nous avons des syndicats que j'appelle ruraux, et très ruraux, comme le SDE 24, il y en a d'autres. Il y en a pour l'eau, il y en a pour le téléphone, mais on se rend bien compte que les maisons mères, que ce soit EDF, Orange ou Veolia, ont tous le même but, c'est-à-dire que le petit, pour eux, ça compte pas, c'est peanuts, quoi. Donc quelque part, il faut qu'on défende ça, et il faut qu'on le défende vraiment fortement, parce que je vais parler de politique aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit bien que le Rassemblement national fait beaucoup de voix dans le monde rural. Pourquoi ? Parce que, comme je le répète, les gens, je les connais, je connais ma population, ce ne sont pas des fachos, ce sont des gens qui sont fâchés. Et pour être fâchés depuis pas mal de temps par rapport à tout ce qui s'est passé, ces gens-là, aujourd'hui, en ont marre et votent pour le seul parti qui n'a jamais été au pouvoir dans le pays. Donc, quelque part, voilà. C'est logique, il faut les comprendre, moi je les comprends, c'est pas pour ça que je les approuve, mais quelque part il faudrait que les vrais démocrates, les gens des partis aussi bien de gauche que de droite comprennent un jour qu'il va bien falloir écouter les gens de la campagne. Les gens de la campagne ont leur mot à dire, on est innovant, on sait faire les choses. On n'est pas fou, donc quelque part, laissez-nous travailler. Et la première des priorités, je crois, qu'il va falloir revenir dessus, si les gouvernements changent, c'est qu'il va falloir revenir aussi sur les urbanisations de nos campagnes et laissons au bloc communal les choix prioritaires de leur commune. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je vais revenir un petit peu sur les fermetures. Je vais reprendre l'exemple que tu citais tout à l'heure, bon, Thivier, mais bon, je vais prendre surtout l'exemple de Ribérac. On voit, ils ont fermé l'agence de Ribérac. Derrière, le tribunal a fermé. est suivi par le trésor public. Donc on voit que au fur et à mesure, les villes, les petites villes de campagne, Ribérac a perdu près de 500 habitants. Donc ça, et ça pose un certain nombre de problèmes. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'économie rurale elle a ses besoins et il est important que les services publics restent dans ce cadre-là. Qu'en penses-tu, Maurice ?
Alors moi, ce que je pense, c'est que les services publics, il faut qu'ils soient maintenus à milieu rural. Mais aujourd'hui, on est dans un système, Alain l'a un peu dit à l'instant, on est dans un système que c'est l'argent qui compte. Avant le service public. C'est de faire des profits, et on s'aperçoit que les profits vont toujours au même endroit, et le monde rural est un petit peu délaissé par rapport à tout ça. Mais effectivement, que je dis pas qu'il faut pas gaspiller l'argent public, il faut bien sûr l'économiser, mais il faut l'employer à bon escient. Et c'est vrai que dans nos campagnes, un jour, les jeunes s'en vont parce qu'il n'y a plus rien. Donc ils partent où ? Vers les métropoles, où il y a du travail. Les industriels, pareil, partent vers les métropoles, et sans compter quand ils partent par l'étranger. Toujours pour rester dans le profit. Et il faut que notre politique nationale, à un moment donné, arrête, je ne dis pas qu'il faut perdre de l'argent, mais il faut arrêter de toujours ces dividendes vers les actionnaires de plus en plus et toujours les augmenter. Et il faut rester un petit peu comme ça se passait autrefois. Il y avait de l'industrie partout autrefois. Les gens travaillaient, vivaient bien d'ailleurs, et même moins stressés qu'ils ne sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout le monde est dans le stress aujourd'hui. Qui dit stress occasionne même certaines maladies.
On dit plus stress, on dit burn-out.
Oui, mais ça c'est un terme à la mode, ça. Bon, après, oui, moi je reste sur le domaine du stress. Donc voilà, bon, et effectivement que tous ces services-là qui sont abandonnés, que ce soit, bon, bien sûr, Enedis, que ce soit la Poste, et on voit bien même au niveau de la santé. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation nationale aussi, qu'il y a quand même de réels problèmes. Il y a de réels problèmes. Et aujourd'hui, nos gouvernants, que j'appellerais nos technocrates, ne bougent pas. Ne bougent pas et laissent faire, et c'est ce qui est quand même dommage pour notre société. Parce que, bon, on a les problèmes dans les campagnes, mais il y a quand même des problèmes en ville qu'on ne connaît pas non plus, et qui ne sont pas minces. On voit bien les affaires de drogue, etc., ce qui se passe. On n'est pas encore tout à fait arrivé là dans nos campagnes, et heureusement, mais ça peut venir. Donc voilà. Et là, je crois qu'il y a toute une politique nationale. On en peut parler à un moment donné, une politique nationale qui est totalement à revoir, et j'espère que nos gens, qu'ils soient de droite comme de gauche, ils ont à se remettre en question.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Donc après cette pause musicale, nous allons reprendre notre émission. J'excuse de M. Ducène qui vient de nous quitter parce qu'il est pris par un certain nombre de tâches. Donc je reste avec Alain et Maurice et nous allons aborder un petit sujet. C'est les déclarations de M. le maire qui n'est plus ministre des Finances qui vient de déclarer qu'il y avait un déficit très important. Donc on se pose des questions. Est-ce que il s'aperçoit au bout de 7 ans qu'il y a un gros déficit, mais il en impute une grande partie aux collectivités territoriales, c'est-à-dire régions, départements, cantons et communes, alors que d'après ce que moi je sais, je suis un simple citoyen, théoriquement ces organismes communes, départements et régions doivent avoir des budgets équilibrés, ce qui n'est pas le cas de l'État. C'est bien ça, Alain ?
C'est tout à fait ça. Et je vais dire, je l'ai dit à la presse en général, parce que la MRF est intervenue au niveau national. Monsieur le maire, il part en nous laissant un beau cadeau rempli de mensonges, rempli de manipulations et rempli de fausses vérités. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les collectivités, pour scinder, pour bien expliquer à nos auditeurs, les communes, toutes les collectivités territoriales, que ce soit la région, le département, les communes et les intercommunalités, sont dans l'obligation d'avoir un budget équilibré. Donc comment peut-il dire que nous sommes la raison de la dette nationale alors que nous, sur les investissements, c'est pratiquement qu'en gros que 9 à 10% des investissements que l'on fait en général dans les collectivités territoriales, le reste c'est l'État. L'État, lui, n'est pas obligé d'avoir un budget équilibré. Eh bien, on y va, on fonce tête baissée et on va dans la dette. Et le problème de cet État, c'est que ça change tous les 6 ans. Et tous les 6 ans, eh bien, ces messieurs de président de la République se servent dans la caisse et puis octroient. Alors, bien sûr, pas pour la population, parce que moi, ce que je dis, si on veut rétablir aujourd'hui une politique digne de ce nom dans notre pays, il faut absolument, la première des exigences, c'est de réduire les inégalités. Alors, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des gens qui veulent travailler, il y aura toujours des gens qui veulent moins travailler, il y aura toutes ces choses-là, ça ne changera pas. Mais ce que je demande et ce que nous demandons, nous, c'est de réduire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas normal de voir des gens avec autant de sommes d'argent gagnées sans rien faire. Je vais prendre un cas typique. Vous avez vu le salaire de Mbappé ? Qu'est-ce qu'il fait de plus qu'un ouvrier maçon ? Bon, il donne du plaisir. Mais le maçon aussi, en faisant votre maison, il vous donne du plaisir, un sacré plaisir. Et il n'est pas normal que ce monsieur gagne autant alors qu'un maçon va gagner la valeur d'un SMIC. C'est pas du tout normal. Donc quelque part, en réduisant ça, bien sûr, il faut en prendre aux riches. Il faut en prendre aux riches, mais ça ne va pas les empêcher d'être riches. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors, monsieur le maire est là dans une fausse vérité, parce qu'il ment. Il ment, et pour preuve, nous l'avons... Je l'ai interpellé lorsqu'il est venu avec le président de la République à Bergerac sur les effets collatéraux de la suppression, la fameuse suppression de la taxe d'habitation. Alors, je ne vais pas le redire, mais je vais laisser, parce que c'est un spécialiste de ça, et c'est lui qui a fait un dossier que nous allons discuter bientôt avec, parce que est concerné particulièrement le département, que nous allons discuter autour d'une table avec les deux sénateurs de la Dordogne, le président du département, moi-même en tant que président de la MRF, et puis Maurice Chabrol qui a établi le dossier. Donc je vais passer la parole à mon ami Maurice qui va vous expliquer ce qu'il en est de ces effets collatéraux.
Avant de parler des effets, on précise un petit peu la question des budgets, parce que je crois que c'est important que les citoyens comprennent bien que l'État leur pique en gros du pognon. Il fait porter sur les communes un certain nombre de choix. Par exemple, il a pris la responsabilité de supprimer la taxe d'habitation. Et on voit aujourd'hui toutes les conséquences que ça a avec l'augmentation, entre autres, de la taxe foncière.
Alors, donc, effectivement, la suppression de la taxe d'habitation qui a été voulue par le président de la République, qui, pour moi, est une très, très grosse erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, bien sûr que les gens de Bercy, qui sont très forts en comptabilité, parce que c'est suppression de la taxe d'habitation, mais ce qui fait que le foncier bâti, alors c'est compliqué, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que c'est quand même des formules assez complexes.
Il faut peut-être une émission spéciale.
Voilà. Aussi. Donc c'est un rassemblement au niveau des communes de la taxe foncière de la commune, le foncier bâti, je parle du bâti, et ce que récupérait le conseil départemental. Donc ce qui s'est passé, c'est chez nous, comme dans beaucoup de départements ruraux, hein, c'est tous les départements ruraux. Hein. Bon, je donne l'exemple de la Dordogne que je connais très bien. Effectivement, que nous, nos communes, se sont trouvées avec plus de recettes que par le passé, sauf que ce surplus de recettes, il est écrété. Il est écrété par un coefficient qui a été déterminé par Bercy, évidemment, et qui est ce coefficient est différent en fonction des communes. En fonction des communes, par rapport à celles qui avaient un foncier fort ou faible, plus le foncier était faible de la commune, et plus la commune devient pénalisée. Enfin, surtout les contribuables de la commune. Donc, pour le département, qui n'a plus cette possibilité de récupérer cette taxe foncière, est compensée par un fonds de TVA. Alors, à un moment donné, moi je sais que sur ma commune, c'est quelque chose que je regarde de très près quand je prépare le budget, je me suis aperçu qu'il y avait une somme qu'on ne percevait pas. Et qui repartait sur d'autres communes, qui repartait vers Bercy, on va dire, d'abord. Hein. Et puis, il y a eu deux classements, les communes surcompensées, communes sous-compensées. Et nous, communes rurales, du fait que les départements avaient une taxe foncière bâtie forte, parce que les départements ruraux, ah ben oui, ils ont besoin d'argent avec l'APA, toute la partie sociale, on va dire, le département de la Dordogne, effectivement, qu'au niveau du social, c'est un gros budget. Les routes départementales aussi, c'est un gros budget. Donc, bien sûr, ont augmenté, évidemment, progressivement, au fil des années, ce taux, qui me paraît normal, bien sûr. Bon, si on veut du social digne de ce nom et des routes dignes de ce nom, donc ils étaient obligés d'augmenter, bien sûr, la cotisation. Et de ce fait, nous, les communes, on se retrouve surcompensés. Donc, c'est de l'impôt payé par nos contribuables et qui repart vers Bercy pour des communes sous-compensées. Ce qu'il faut savoir, les communes sous-compensées, ce n'est pas forcément des communes pauvres. c'est des communes qui viennent des métropoles, comme Bordeaux, Lyon, etc. Neuilly, par exemple, voilà. Oui, parce que sur le rapport que j'ai, c'est Neuilly qui est cité, d'ailleurs. Bon. Donc, ça revient sur ces communes-là, qui, eux, ont quand même des ressources que nous, nous n'avons pas, les ruraux. Et ça, c'est quand même important. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie, fait 3 ans que j'essaie de défendre ce phénomène. Et comme l'a dit Alain, là, on va avoir enfin une réunion avec le président du conseil départemental. Parce qu'il faut savoir que le département, en 2023, a perdu 8 millions d'euros. Parce que comme il est compensé par un fonds de TVA, ça, je l'avais déjà dit, j'ai dit, si l'économie se casse la figure, les départements, ils sont morts. Et ce qui repart sur Bercy, c'est 57 millions d'euros payés par les contribuables périgourdins. Et ça repart, ça ne reste pas sur le département, ou sur la commune, ou sur l'intercommunalité. Moi, ce que j'ai regardé, bon, moi, je suis pour faire du social. Moi, je m'en fous, cet argent reste, mais qu'il reste dans le département. S'il ne reste pas à la commune, c'est dans le département. Et demain, déjà dès à présent, le conseil départemental, sur les subventions des projets qu'ont les communes, ça a baissé de 5 à 10%. L'année prochaine, on ne sait pas ce qu'ils vont 30%. Donner. Combien ?
30%.
Même 30% sur certains projets. Ouais. Mais moi, je sais que sur les routes communales, ça a baissé de 10%. Hein. Mais l'année prochaine, on ne sait pas de combien ils vont baisser, parce que ces 8 millions d'euros qu'ils n'ont pas touchés en 2023, ils ne peuvent pas le redonner aux communes. Ce n'est pas possible. Et ils sont obligés même de serrer les boulons à certains moments. Hein. Et 2024 sera encore pire. Ce sera encore pire que 2023, parce que ce qui est grave, quand nos bases augmentent, elles augmentent tous les ans, en fonction du coût de la vie, si une commune veut augmenter le taux du foncier bâti, elle se trouve pénalisée, cette partie du coefficient, à chaque fois, ça monte en progression. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que sur la taxe d'habitation, qui n'est que sur les résidences secondaires, moi, je me suis rendu compte qu'au fil des années, ce volume de base baisse sur les taxes d'habitation. Pourquoi ? Parce que les taxes d'habitation sont que sur les résidences secondaires. À chaque fois qu'une résidence secondaire devient résidence principale, on perd la taxe. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Et c'est pour ça qu'on va avoir une réunion avec les deux sénateurs et le président du conseil départemental. Et que je remercie beaucoup la personne qui m'a donné les éléments, qui est l'attaché parlementaire du sénateur Serge Mérilloux, qui m'a remonté tous ces éléments et qui a fait aussi une recherche pour me permettre à monter ce rapport.
Ça veut dire, Maurice, tu vas m'éclairer, ça veut dire que pour la première fois, d'après ce que tu dis, nos administrés périgourdins payent un impôt qui n'est pas attribué au département et qui est attribué à un département voisin.
Un département voisin, pas forcément. Ça peut être une ville, une communauté d'agglomération, une métropole, on va dire. Sur les départements où le foncier bâti était faible, et je prends l'exemple de la Gironde, c'est pour ça que j'ai été faire tout un tas de recherches, la Gironde était sur le foncier bâti autour de 15-16%, si ma mémoire est bonne, et que le département de la Dordogne était à 27%. Mais les départements ruraux de faible population, où il y a une population vieillissante, où ils ont besoin de financement pour toute la partie, la partie sociale, on va dire, la paille, etc., il y en a plein d'autres, hein, et même les jeunes handicapés aussi, qui subventionnent l'éducation et tout ça. Hein, donc ce qui fait que c'est beaucoup d'argent qu'il faut, surtout en département comme la Dordogne, mais si on prend la Corrèze, la Creuse, c'est pareil, hein, le Cantal, le Puy-de-Dôme, c'est tous des départements ruraux où un gros financement repart. Alors, bien sûr, ça repart, c'est redistribué soi-disant, je dis bien soi-disant, sur les communes sous-compensées, mais je ne suis pas persuadé, comme on ne nous dit pas tout, que tout soit redistribué.
On peut dire que Bruno Le Maire nous a escroqués.